Bonjour à tous, Gaël Leroux, donc je suis directeur de recherche au CNRS, merci pour l'invitation. Je vais vous faire une présentation sur un peu plus, on va dire un peu plus fondamentale. Je ne vais pas rentrer trop dans le technique, je suis chimiste de l'environnement et initialement je travaillais surtout sur les métaux lourds. Alors j'ai illustré ma présentation par quelques messages clés autour des travaux qu'on mène au CNRS, donc je fais partie de la même équipe que Sabine Sauvage. Ils sont plus, on va dire, dans des recherches de solutions. Moi, je suis plutôt dans la recherche des micropolluants et de chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, autrefois et aujourd'hui, le plomb était partout, comme le sont les plastiques aujourd'hui. On en utilise partout et on pourra en discuter au moment du repas. N'hésitez pas à venir me solliciter autour du plomb. Alors, pourquoi j'ai illustré le plomb, le canard en plastique? Bon, bah, vous savez, il y a des collègues qui sont très au colère, en tout cas, par exemple à Perpignan, il va y avoir une course de canards en plastique organisée par Auchan, ou qui a été organisée par Auchan en juin. Et c'est la nouvelle mode d'organiser des courses de canards en plastique, des milliers de canards en plastique qui sont censés être récupérés, mais donc on trouve ça un peu aberrant. Et les canards, malheureusement, souffrent aussi, les vrais canards, souffrent de saturnisme à cause de la pollution au plomb. Alors, le plomb, c'est toujours un problème, hein, que ce soit aux États-Unis. Dans les milieux anglo-saxons, ils ont fortement conscience de la pollution au plomb. En France, on nie un peu le problème. Alors, on pourra en discuter autour de l'eau potable. C'est quelque chose qui est quand même... Il y a une prise de conscience en Europe, mais il y a quand même encore une grande problématique autour du plomb, avec un effet neurotoxique non négligeable. Et il y a aussi des pollutions, à la fois des pollutions diffuses, des pollutions irritées, mais il y a aussi, par exemple, la pollution dans les zones humides. On parlait des zones humides tout à l'heure. Dû au fait, par exemple, de l'utilisation de plomb et d'autres métaux lourds pour les munitions de chasse et aussi pour les plombs de pêche. Alors là, juste, je vous illustre c'est un petit peu compliqué, mais ce que je vous montre ici, alors je ne sais pas si vous voyez la flèche, non. Ah si, on voit la flèche, normalement. Alors, ici, c'est une étude qu'on a menée avec des collègues, une entreprise qui s'appelle Addict Solutions et avec sur les bassins versants de la Loire et de la Bretagne. Et ici, c'est des résultats fondamentaux de l'évolution atmosphérique du plomb en France établie grâce à des tourbières. C'est comme des carottes de glace. Plus c'est profond, plus c'est vieux. Et ça, c'est des études financées par le CNRS et par l'Europe qui me permettent d'établir la signature, l'empreinte digitale d'un polluant comme le plomb. Et vous voyez que autour des années 2000, jusque dans les années 2000, là, vous voyez cette couleur rouge, ça, c'est la signature de l'essence plombée, la fameuse essence plombée, le plomb industriel. Et le plomb d'origine naturelle, il a une signature, là, avec des couleurs un peu plus claires. Et ça, c'est le signal atmosphérique qui est rentré via la pluie, qui a été étudié via ces carottes de tourbe qui sont comme des carottes de glace. Et je peux les comparer, par exemple, avec la signature des sédiments ou également de l'eau. Ici, vous avez l'eau, waters en anglais, eau, des bassins versants de la Loire et de la Bretagne. Alors, ce qui est illustré ici, c'est une étude récente donc qu'on a menée avec l'agence. Et vous voyez que la plupart des signatures actuelles en plomb de l'eau et des sédiments en Bretagne et dans le bassin versant de la Loire sont éloignées de la signature de l'essence plombée qui est plutôt ici. Mais il y a quand même quelques eaux qui montrent la présence de plomb, on va dire, d'origine anthropique. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même, c'est une bonne nouvelle, je vais vous dire, c'est possible de diminuer l'imprégnation à un polluant et le plomb en est le meilleur exemple. Ici, vous avez un exemple aux États-Unis, mais on pourrait avoir le même exemple en Europe, c'est que les concentrations en plomb dans le sang diminuent fortement avec l'amélioration des normes environnementales, que ce soit l'interdiction de l'essence plombée ou aussi l'interdiction, par exemple, de l'utilisation de la soudure au plomb. Ah, donc, on sait que le plomb, de nouveau, est néfaste, quelle que soit la concentration retrouvée dans l'environnement ou dans un écosystème ou dans l'homme, mais qu'il est possible de diminuer fortement notre imprégnation au plomb, qui est un contaminant avéré, un polluant avéré. Alors, actuellement, donc, le plomb, comme le plomb autrefois, le plastique s'insinue partout aujourd'hui. Alors, le plastique, les polymères artificiels, alors, il s'insinue partout aujourd'hui, souvent de façon invisible, un peu de la même manière que des molécules dont on a parlé, comme les pesticides. Alors, ce qui est intéressant avec le plastique, c'est qu'il y a aussi les macroplastiques. à Arnold, on en a parlé tout à l'heure, c'est que les macroplastiques, on les voit, donc ça c'est aussi hyper pédagogique pour nous, pour les enfants, de montrer aussi que le plastique il est partout, et ensuite il se dégrade en microplastique, voire en nanoplastique. Alors ici vous avez un diagramme de nouveau, excusez-moi, c'est en anglais, vous avez ici les tailles, on va dire, de gravier, sable, argile, boue, et vous avez aussi par exemple, ici ça peut être peut-être un peu plus parlant, vous avez les tailles des bactéries, ici, en termes de taille, avec, par exemple, ici, le micromètre, qui est donc le millième de millimètre, et vous voyez que les cellules humaines, les cellules végétales, les bactéries, les virus, ont une taille autour du micromètre, et que les nanoplastiques, les microplastiques, ce sont des plastiques qui ont une taille en dessous du millimètre, du 5 millimètres, jusqu'au micromètre, et après, on parle de nanoplastiques, dont je ne parlerai pas trop aujourd'hui. Alors, ces plastiques, ils ont différents impacts. Alors, il y a les macroplastiques qui vont avoir un impact physique, mécanique. Ils vont, par exemple, changer la physico-chimie du sol. Et ça peut poser problème parce que dans certains amendements de boues d'épuration, ça contient des macroplastiques. Et dans certains pays, il est autorisé à en rajouter. D'ailleurs, en France, on fait des tests. Et donc, ça a un impact plutôt physique. Néfaste ou positif, hein, ça peut avoir un impact positif en termes d'allègement des sols. Puis lorsqu'on rentre sur les microplastiques, voire les nanoplastiques, là on rentre sur un impact chimique avec une libération de potentiels molécules organiques qui sont très proches des pesticides. Et puis également le fait que les microplastiques eux-mêmes peuvent rentrer dans le vivant puisqu'ils ont des tailles très proches des tailles des cellules humaines ou des cellules du vivant. Les plastiques, la pollution plastique, elle est connue depuis longtemps, depuis les années 70, à travers les travaux des océanographes et des biologistes marins, qui ont montré en évidence, qui ont mis en évidence la pollution des eaux de surface atlantique, à la fois avec des plastiques dégradés à droite, mais également, et c'est non négligeable, de microplastiques primaires. Donc c'est des microplastiques qui sont soit utilisés directement, par exemple dans nos cosmétiques, dans nos dentifrices, mais également par les industriels comme produit de base. Et ça, il y a des commerces immenses de plastique à travers le monde, à travers des microbilles ou des surfaces ou d'autres matériaux de source plastique. Alors, de nouveau, un peu de la même manière que l'étude précédente, nous, on travaille en Ariège, dans le Haut-Vic de Sceaux. On a un observatoire hommes et milieux qui a été développé par le laboratoire géographie de l'environnement, en particulier grâce à Didier Gaëlo, qui était directeur de recherche au CNRS. Et on travaille sur une tourbière et aussi sur le bassin versant qui est ici en photo, qui est le bassin versant d'un lac qui s'appelle le lac d'Arbu. Grâce à des collègues australiens, on a eu la chance de pouvoir les recruter. Ils sont venus et puis ils ont eu l'idée d'étudier les microplastiques à l'aide d'une technologie qui s'appelle la microscopie Raman. Et ils ont étudié les microplastiques dans les pluies, dans les neiges en fait, du Haut-Vic de Sceaux. Donc la photo que je vous ai montrée, ce n'est pas vraiment la photo qu'on a échantillonnée, puisqu'on avait échantillonné lorsqu'il neigeait, lorsque la tourbière de Bernadouze était recouverte de neige. Et on a découvert des microplastiques dans la pluie. Donc, ça avait fait la une des journaux et en plus une étude américaine avait appuyé nos travaux aussi. Et donc on trouve, il pleut des microplastiques. Donc ça montre aussi qu'il y a une sorte de cycle des microplastiques. Et on trouve principalement du polyéthylène, du polystyrène. Alors le polyéthylène, c'est celui qu'on trouve le plus abondamment parce que c'est celui qui est le plus abondamment utilisé. Et au pic du Midi, notre laboratoire fait partie de l'observatoire Midi-Pyrénées, donc on a la chance de pouvoir travailler aussi au sommet du pic du Midi. Et au sommet du pic du Midi, on a pu trouver, alors on n'a pas mesuré les pluies, mais on a mesuré les aérosols avec une énorme pompe et on a pu détecter les microplastiques. Alors ce qui se passe, c'est que les microplastiques au sommet du pic du Midi, ils viennent de très très loin. Alors il y en a très peu, il y a à peu près l'équivalent d'un plastique pour l'équivalent d'une petite R5. C'est très peu, mais on arrive à pomper énormément et on se trouve dans ce qu'on appelle la troposphère libre, c'est-à-dire un peu une autoroute de polluants, de micropolluants. Et ce qu'on voit ici, c'est des simulations météorologiques qui montrent d'où viennent les plastiques et on voit qu'en fait, qu'ils font le tour du monde, surtout les plus petits. Alors, on s'est posé aussi la question, alors je vous parlais un peu de ces carottes de tourbe assez rapidement, je vous en ai parlé pour le plomb, mais on peut aussi remonter dans le passé pour les plastiques grâce à ces fameuses tourbières qui sont ici, là. Et on a la chance d'avoir, c'est des zones humides hein, sont à protéger aussi, mais elles sont aussi des archives environnementales. Et plus c'est profond, plus c'est vieux, donc on peut remonter dans le temps. Et de nouveau, Steve et Déoni, avec l'ensemble de l'équipe, ont mesuré les microplastiques en fonction du temps. Donc ici, c'est dans la tourbière et ici, c'est dans le lac d'Arbu. Et plus on est à droite, on est sur des années 1890-1900. Donc a priori, il n'y avait pas de plastique. Et c'est effectivement le cas. On ne trouve pas de plastique dans les couches datées de la tourbière et du lac de 1900, mais on voit une augmentation progressive des plastiques avec les niveaux de plastique les plus importants dans les couches les plus récentes, ce qui est assez logique, mais ce qui montre l'imprégnation de l'environnement au plastique et le fait que finalement, que ça soit dans les tourbières ou dans les lacs, et des travaux à l'échelle globale montrent ça aussi, c'est que notre imprégnation plastique, c'est-à-dire le fait qu'on en produise plus et qu'on le gère pas si bien que ça, on le retrouve partout dans l'environnement, même dans les zones de montagne, et on en trouve aussi au sommet de l'Everest, en Arctique, en Antarctique. Alors juste ici, on fait aussi un peu de modélisation, alors modélisation avec toutes ses limites, mais pour vous montrer que même si on arrêtait le plastique actuellement, par exemple, malheureusement, il y a eu l'échec du traité sur les plastiques, vous voyez ici les scénarios de production de plastique. Alors BAU, c'est business as usual, donc on voit clairement là, l'industrie pétrochimique investit massivement dans la production de plastique, en particulier suite à l'utilisation de nouveaux hydrocarbures, hein, les sables bitumineux, les gaz de schiste, etc. Et c'est vraiment une filière pour la pétrochimie. Et donc, business as usual, la production augmente et les plastiques qu'on va retrouver soit au bord de l'océan, dans les rivières, mais également dans l'atmosphère vont augmenter de manière exponentielle. Et ce que nos travaux démontrent aussi, c'est que même si on améliorait et par exemple, on mettait en place un traité sur le plastique, on n'en sortirait pas si rapidement que ça de la pollution plastique, puisque comme je vous le disais, les plastiques se dégradent de macro en micro en nanoplastique. Alors, donc, plomb hier, plastique aujourd'hui, on peut réduire les émissions, mais les traces persistent, donc ça c'est quelque chose à retenir. On n'en finira pas et on en a pour des décennies. Alors, de nouveau aussi, la recherche fondamentale permet aussi d'aller chercher des aiguilles dans une botte de foin, non seulement dans l'eau de pluie ou dans un sol de montagne, mais depuis une dizaine d'années, donc, nos collègues travaillent sur les microplastiques dans les eaux. Et là, actuellement, bonne idée, l'idée c'était de suivre les plastiques, les microplastiques dans les eaux destinées à la consommation humaine. Mais malheureusement, suite à la fois des limites technologiques et à la fois aussi sûrement un peu du lobbying d'industriels, la méthode mise en place actuellement se limite à 20 micromètres. Alors 20 micromètres, ce n'est pas très intéressant parce que ce ne sont pas les microplastiques qui sont susceptibles d'intégrer le vivant. Et nous, il se trouve qu'avec nos techniques de microscopie Raman, qui est une technologie relativement robuste mais qui a peu été utilisée encore pour les microplastiques, tout simplement parce qu'elle vaut très cher, elle vaut à peu près 10 fois plus cher que la technologie de routine, on peut aller chercher les microplastiques les plus petits. Et les microplastiques les plus petits, en fait, on s'aperçoit qu'ils représentent plus de 95% des microplastiques qu'on retrouve dans les eaux minérales, donc de bouteilles. Ce sont les 10 premiers échantillons qui sont ici, en haut à gauche. Et on a échantillonné une eau du robinet. Alors l'eau du robinet, donc ça correspond à une eau domestique. Alors on retrouve des microplastiques partout. Les journalistes ont voulu mettre en évidence le fait qu'il y avait pas mal de microplastiques dans l'échantillon numéro 11, qui est l'échantillon de robinet. C'est pas ça qu'il faut retenir. En termes d'ordre de grandeur, on trouve des microplastiques partout. Alors il faut retenir deux choses. La première chose, c'est que les microplastiques qu'on retrouve dans les eaux minérales, ils viennent pas forcément du contenant ni du bouchon. Donc ça veut dire qu'ils viennent en amont, soit des processus de filtration, et on sait qu'il y a eu quelques scandales sur les filtrations d'eau minérale, et ou éventuellement aussi tout simplement la pollution du niveau de captage. Alors ce qui est plus inquiétant, parce que des eaux souterraines a priori devraient être exemptes de pollution plastique. Concernant l'eau du robinet à Toulouse, bon, ce n'est pas surprenant qu'il y ait des microplastiques, tout simplement parce qu'on sait qu'il y en a en Garonne. Alors, on essaie de développer des projets actuels pour essayer de comprendre d'où vient cette pollution plastique. Est-ce qu'elle vient du captage ? Normalement, les usines, pour le coup, pour les microplastiques, sont relativement efficaces. Ou est-ce qu'elle vient de la tuyauterie du réseau ou tout simplement du réseau domestique ? De nouveau, on retrouve parmi les plastiques les plus abondants le polyéthylène qui est le plus utilisé. Donc en résumé, 98% des microplastiques détectés dans l'eau potable mesurent moins de 20 micromètres. Donc c'est un seuil non couvert par la directive européenne qui va être mise en place aussi et qui, à l'échelle française. Alors, on a mis en place une nouvelle méthode qui détecte les microplastiques dès 1 micromètre. Donc ça, c'est intéressant et c'est faisable, ça coûte plus cher. On est sur des coûts à peu près identiques aux coûts d'analyse de pesticides. Et donc, comme je disais, les bouteilles en PET ne sont pas les principales sources de contamination par les microplastiques, ce que je trouve pas forcément plus rassurant, parce qu'il y en a, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Alors là, c'était assez rapide, mais c'est aussi pareil pour se projeter. Donc moi, je suis plutôt chimiste dans l'environnement, donc l'objectif, c'est vraiment de tracer et suivre les sources environnementales primaires, comprendre et tracer les étapes de transfert, le traçage, et dans les perspectives de recherche, c'est aussi de tracer les sources, de développer des méthodes, et qu'elles soient aussi les moins onéreuses possibles. Donc on essaie aussi d'améliorer notre coût. Alors bien sûr, il y a des impacts écotoxicologiques non négligeables des plastiques, et surtout des plastifiants, donc des additifs associés au plastique. Et puis aussi, l'objectif, c'est aussi d'évaluer l'efficacité des traitements d'eau et l'optimisation des matériaux utilisés pour le transport et le stockage. Alors à retenir... Donc les microplastiques de l'environnement au corps humain, donc on en trouve partout à l'échelle globale. Ils sont non limités aux océans et rivières. Ils sont présents aussi dans l'air, dans les sols, avec une pollution qu'on appelle irritée, donc on en a pour des décennies. Ils sont retrouvés dans l'eau potable, au robinet et aux bouteilles, avec une majorité de particules en dessous de 20 micromètres. Alors, donc comme je vous disais, je ne suis pas écotoxicologue, je ne suis pas médecin, mais on en retrouve dans le corps humain. Ils sont détectés dans différents tissus humains, les cerveaux, le foie, les reins, et même les liquides folliculaires ovariens. Il y a une suspicion d'impact sur la reproduction, la digestion, la santé respiratoire. C'est très compliqué parce qu'on parle de cocktail ici. Et c'est quelque chose qui n'est pas non plus inconnu depuis, qui n'est pas connu depuis quelques années. Ce n'est pas un problème qu'on découvre. Par exemple, les médecins qui travaillaient sur l'amiante, lorsqu'ils faisaient des biopsies de tissus humains, de tissus pulmonaires, ils retrouvaient parfois aussi des plastiques ou en tout cas des polymères artificiels. De la cellulose aussi, mais des fibres de plastique. Et là, il y a juste un impact mécanique qu'on peut imaginer dans les poumons, tout simplement parce qu'on respire des fibres de plastique. C'est quand même quelque chose qui n'est pas inconnu. Des fois, il faut juste aller chercher dans la littérature et mettre en évidence le problème et le questionnement de ces types de micropolluants qu'on trouve dans l'environnement. Alors je vous remercie et donc je remercie mes collègues avec qui ça serait impossible autrement de développer, sans qui ça serait impossible de développer ce type de recherche, et puis tous les organismes et observatoires qui soutiennent notre recherche au CNRS, à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On va repasser à 5 minutes de questions pendant que Pauline Servin s'installe pour la prochaine intervention. Et je vous laisse lever la main si vous avez des questions.
Oui. Bonjour, Martin Gartel, je suis médecin généraliste. J'avais une petite question. Est-ce que vous pensez que c'est possible de boire des boissons chaudes dans des éco-cups ?
C'est une question très pratique. Alors, il y a des collègues qui ont commencé à travailler là-dessus, sur les gros plastiques, finalement, pas forcément... Alors, la deuxième technique dont je parlais, c'est l'infrarouge. Donc, je sais qu'il y a des études sur les éco-cups qui montrent, ou aussi sur des tests aussi sur le thé, la tisane, des choses comme ça aussi, qui montrent que ça relargue des fibres, soit des fibres naturelles, soit des fibres plastiques. C'est démontré qu'il y a des relargages de grosses plastiques. Pour moi, les gros microplastiques, c'est pas forcément ceux qui posent problème au niveau santé. Mais oui, c'est pas forcément une solution. Le verre étant sûrement un des matériaux les plus inertes et à celui à. Voilà.
Merci.
Mais c'est une question de bon sens, hein, je veux dire. C'est plutôt ça.
Bonjour, Jean-Michel Barbier, association Au Secours 31. Juste une question sur les canalisations qui sont utilisées pour l'eau potable. On savait les problèmes qui étaient posés par les canalisations en PVC qui généraient du polyvinyle monomère. On a décrété à un moment donné que par les techniques de fabrication, Tout ce qui était avant les années 80 était susceptible de générer des quantités importantes, ce qui fait que dans les priorités des programmes des services des eaux, il fallait faire disparaître ces canalisations et les remplacer. Ensuite, on a dit qu'il n'y a pas de danger pour les nouvelles canalisations qui sont réalisées. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, puisque ce sont souvent des réseaux ruraux, souvent en bout de réseau, avec des vitesses de l'eau qui sont très lentes, et donc il y a des temps de séjour qui sont relativement importants. Mais une autre question, et on s'était posé la question, je travaillais au service des eaux de Toulouse avant, on s'est posé la question dans les années 90, lorsqu'on a introduit les canalisations en polyéthylène, haute densité, enfin il y avait plusieurs catégories. Et à l'époque, on avait demandé, y a-t-il un agrément alimentaire pour utiliser ça ? On ne l'utilisait pas auparavant. Et on n'a obtenu d'aucun des fabricants cet agrément alimentaire. Pourtant, on l'a développé parce que de tous les côtés, ça se faisait, ça revenait moins cher. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là pour voir quel est l'impact de ces canalisations qui sont très développées ? Elles sont légères, elles sont pratiques, elles sont moins chères, mais c'est des produits pétroliers.
Oui, alors actuellement, il n'y a pas de travaux là-dessus. Comme je disais, on est en pourparlers avec Toulouse Métropole et l'Agence de l'eau aussi pour développer des projets, alors plus sur la relargage des microplastiques. Mais ce que vous avez posé, c'est plus généralement, c'est qu'on a du mal à avoir les informations des plastifiants de la part des industriels, de tous les additifs qui servent finalement à donner la propriété au plastique. Donc nous, avec les techniques actuelles, on arrive à identifier le type de plastique, comme vous le disiez, polyéthylène, PVC, etc. Mais on n'arrive pas forcément à identifier les additifs. Là, on est plus dans des techniques qui sont proches des techniques pour analyser les pesticides. Et c'est des techniques qui coûtent cher. Et on cherche à l'aveugle, alors que les industriels ont les informations. Mais donc ça, c'est compliqué. Donc le questionnement autour des nouveaux plastiques qui servent pour les canalisations et qui sont plutôt très résistants. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Effectivement, on a toujours ces questions-là. Est-ce qu'ils relarguent des petits microplastiques ? Ça, on va pouvoir y répondre assez rapidement sur les plastifiants et sur le temps de résidence, qui est une très bonne question, une très bonne remarque. Ça, on va essayer de trouver d'autres indicateurs chimiques qui vont nous permettre de voir si l'eau stagne plus longtemps ou si dans les réservoirs, parce que Toulouse Métropole stocke l'eau dans des réservoirs pendant une ou deux journées. C'est court, mais ça peut aussi influencer éventuellement la présence de micropolluants comme les microplastiques.